Bonjour, c'est Jean-Pierre Dionné, vous écoutez Pop Pop Pop. Est-ce que le pop est soluble dans le rock? Est-ce que le pop est pop-litique? Pop Pop Pop, c'est parti mon kiki.
Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. Aujourd'hui, amis Popopien, et je sais que cette nouvelle va vous réjouir, il va beaucoup être question de moi. Non, rassurez-vous, pas de moi avec un X au bout, aujourd'hui il y a le Moax à tennis. Il est allé soutenir l'association SOS Terre Battue à Orléans. Non, pas de moi sans X au bout non plus. Je ne fais pas de la radio pour parler de moi, même si je ne déteste pas être parfois le centre de l'attention. Et ne nous le cachons pas, l'objet de tous les désirs. Non, nous allons parler non pas de moi, mais de Deux Mois, le nouveau film de Cédric Lapiche, qui sort non pas dans deux mois, mais le 11 septembre, le jour où l'on évite d'aller faire un tour en avion, et encore moins en avion dans les tours. Et comment se consoler de ce sinistre souvenir du 11 septembre, qu'en compagnie d'une comédienne au charme lui aussi incendiaire, qui illumine littéralement deux mois, et croyez-moi, pour bien plus longtemps encore. Une comédienne que l'on retrouve pour la deuxième fois dans un film de Clapiche, ce qui va lui permettre de nous expliquer ce qui l'élie, et nous faire partager son émoi pour deux mois en deux mots. En un mot, comme en Émile, Anna Girardot est la première invitée de Pop Pop Pop. Je suis très
heureux. Pop Pop Pop. Antoine de Paune.
Bonjour Anna Girardot.
Bonjour Antoine.
Vous me voyez dans tous mes états. Avec vous, nous allons parler de Deux Mois, le nouveau film de Cédric Lapiche qui nous rejoindra dans quelques instants. Et avec nous pour parler de Deux Mois, elle, Charline Roux.
Bonjour Charline. Faire pire ou pas? Bon, il y a vous, puis l'autre là, qui est là.
Bonjour Charline.
À la vue de la lumière, elle est venue. Bonjour Antoine, bonjour Anna.
Mais avant d'aller plus loin, Anna, ici, il existe une question qui était à l'ouverture de Pop Pop Pop, ce que le baptême de l'air est aux apprentis aviateurs. Et cette question, c'est... Anna Girardot, pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses à native, Girardot, deux moitineuses et même clapichinatales. Et parmi mes préférées, il y a celle de François Civil, l'autre moi du film, écoutez.
La pop culture, c'est donc la culture populaire qui représente une forme de culture dont la principale caractéristique est d'être produite et appréciée par le plus grand nombre, à l'opposé d'une culture élitiste ou avant-gardiste qui ne toucherait qu'une partie aisée ou instruite de la population. Elle ne doit pas être confondue avec la culture de la masse ou la culture médiatique.
Merci François Civil et merci aussi beaucoup Wikipédia. Hein. Alors et pour vous, Anna Girardot, qu'est-ce que c'est cette pop culture?
Ah, je vais être beaucoup plus simple que François.
J'espère.
Ben pour moi, ça me fait penser à moi devant mon autoradio en lisant les paroles de Britney Spears et de danser sur des clips de MCM et de MTV. Pour moi, c'est ça, la pop culture.
Beaucoup de musique, donc.
Pour moi, c'est la musique.
Non, parce que la pop culture, on peut l'aborder par plein de prismes différents.
Bien sûr,
la musique, la littérature, le cinéma, les séries. Donc pour vous, c'est musique.
Pour moi, c'est la musique.
Et en particulier, la petite Britney Spears.
Et pour moi, Britney Spears, elle rentre là-dedans.
Ok, on va y revenir dans quelques instants. La pop, la culture et la pop culture, on en parle tout de suite dans Pop Pop Pop, juste après Earth, avec un F, Quake. C'est un nouveau morceau du rappeur californien Tyler, The Creator.
Don't leave, it's my fault. Don't leave, that body roll. Don't give a fuck about none. Ain't like fuck my lord. Them might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Don't retaliate, yo. He ride like the car. And he weak. Yo, like Wolf Vicky. Yo, oh my god. I'm damn not tipping. Yo, slowly.
J'essayais de faire le signe West Coast, mais c'est très douloureux.
Mais non, c'est l'arthrose. Oui,
bon, bah, c'est pas réussi, c'est malheureusement à voir sur franceinter.fr. Le son californien de Tyler, the Creator, c'était Earthquake, et cet extrait de l'album Igor. Vous écoutez Pop, 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 l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec celle qui adore donc écouter ceci. Mais qui est cette mélomane déviante ? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, un pop portrait, c'est votre portrait, Anna. Mais
à base de pop, 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 pop.
Et c'est signé Charline.
Oh, on dirait un petit chat. Oui, c'est mignon. Aujourd'hui, une invitée du genre magnétique. Je pèse mes mots et je les pèse d'autant mieux que la première fois qu'il m'a été donné de la voir, elle était Juliette sur les planches, mise en scène par Nicolas Briançon. Elle donnait vie, corps et mort à la Capulet avec force et grâce, une tâche pas si aisée. Dans Les Revenants, la série de Fabrice Gobert, elle a prouvé qu'on pouvait être magnétique et flippante en même temps. Du coup, Fabrice Gobert ne s'est pas privé de faire appel à son talent pour son thriller Simon Werner a disparu. On l'a retrouvée par la suite, Maria Clo-Clo. J'ai dit magnétique, pas électrique, à dessin, du coup. Découvrant Le Beau Monde chez Julie Lopez-Curval, je note au passage que les réels aiment bien vous prénommer Alice, puisqu'après Gobert et Curval, Yann Gozlan vous prénommera ainsi dans Un homme idéal. On a aussi vu notre invité dans des films de boisson, et je vois poindre votre mauvais esprit, Antoine. C'est pas pour ça que je la trouve magnétique. Saint-Amour de Kier Werner de Lépine et Ce qui nous lie de Cédric Clapiche, qu'elle retrouve pour le film qui l'amène ici. À vous maintenant d'être aimantée.
Merci, Charline. Qui est ce mystérieux cloco?
C'était un lanceur, artiste
bien,
des
bien.
Années 60.
Voilà pour votre portrait, Anna, il vous convient ?
Il est magnifique, merci Charline.
J'en profite pour ajouter une info, vous êtes une jeune fille sensible, ultra sensible, tellement sensible qu'une des scènes qui vous bouleverse le plus, m'a-t-on dit, c'est celle du dîner de con avec Jacques Villeray lorsqu'il demande à sa secrétaire de choisir entre deux cravates identiques.
Laquelle ?
C'est la même.
Non, celle-là est plus rouge. Allez, jamais ça fait plus fantaisie.
Vous êtes bouleversée ?
Oui.
Mais oui, elle est en larmes. Enfin, qu'est-ce qui vous bouleverse à ce point là-dedans ?
Mais il est tellement content, il est tellement excité, il est tellement fier, il est et on va être tellement méchant avec lui. Et ça me bouleverse vraiment.
Tant de sollicitude me touche à mon tour. Bon. Anna Girardot, dans la séquence qui va suivre, il sera également question de choix, mais pas de cravate. C'est l'heure de votre pop liste. Nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, votre choix s'est porté sur les lunettes les plus célèbres du cinéma américain avec l'auteur de L'erreur est humaine. Il s'agit bien évidemment de Woody Allen. Charline, les milléniaux l'ont bien entendu parler de Woody Allen, réalisateur, mais ils ignorent pour la plupart que non seulement c'est un clarinettiste émérite, mais surtout un des auteurs les plus spirituels du siècle précédent. Précédent, pourriez-vous leur rappeler, Cloco ?
Tout à fait, Antoine. Il suffit de lire ces 18 nouvelles ayant pour une conductrice une sorte d'éloge de l'absurdité, empreinte de décalage et de dérision. D'aucuns diront, sa marque de fabrique.
Merci, Cloco. Alors, Anna, auriez-vous la gentillesse à votre tour de nous en lire un extrait, s'il
vous plaît ? Mais avec grand plaisir.
Tout commença avec l'achat d'un petit bâtiment de gris brun dans l'Upper East Side de Manhattan. Mademoiselle Wilpong de l'agence immobilière Mengele nous avait assuré que nous faisions l'affaire du siècle. Le prix ne dépassait pas en effet celui d'un bombardier furtif. Le dit logis était vendu prêt pour emménagement immédiat et sans doute l'était-il pour une famille de Romanichel ou des amateurs de bivouac sur gravat. C'est un défi, déclara ma femme, pulvérisant du même coup le record féminin de la litote en salle. Ça va être drôlement amusant de retaper cette maison. Je tâcherai de faire contre mauvaise fortune bon cœur et esquissant un pas de côté pour éviter une latte de plancher branlante, comparer les charmes de notre nouvelle maison à ceux de l'abbaye de Carfax où le comte Dracula avait en son temps élu domicile.
Merci Anna Girardot, cet extrait de L'erreur est humaine, donc de Woody Allen, le livre que vous avez choisi.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que, alors là, écoutez, j'ai pas, je trouve que l'humour de Woody n'est pas, ne ressort pas tant que ça. Mais
c'est le choix de notre stagiaire.
mais je trouve qu'on y retrouve sa patte, son humour et son ton. On a l'impression que tout d'un coup, c'est quand c'est pas moi qui le lis, j'entends sa voix dans ma tête. Ouais. Et on a l'impression de voir des petites nouvelles de films qu'il aurait pu réaliser.
Vous êtes sensible autant à l'auteur Woody Allen qu'au réalisateur?
Et j'ai découvert l'auteur et je ris encore plus en le lisant qu'en le voyant.
Est-ce que vous seriez prête à tourner avec lui alors qu'il est boycotté par tout le monde aujourd'hui?
Oui.
Oui.
bien sûr, parce que pour moi l'artiste est immense et que son cinéma m'a donné envie d'aller vivre à New York, son humour m'a donné envie de faire du cinéma et que je me suis toujours dit mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais jouer dans un film.
Vous avez vécu à New York?
J'ai vécu à New York.
Donc on ne peut pas avoir vécu, c'est ça.
Vous voulez vraiment vous moquer de mes erreurs de faute de
frappe? Non, pas du tout. On ne peut pas avoir vécu à New York et ne pas avoir envie, quand on est comédienne, de travailler avec Woody Allen, évidemment. Bien, alors passons au cinéma. Pour le film, c'est votre côté tarantinesque qui s'exprime, car vous choisissez Pulp Fiction. Charline.
Il n'y en a pas un pour rattraper.
Charline, vous êtes pulpeuse, ce n'est pas une fiction. Resituez-nous ce Tarantino-là dans sa filmographie, s'il vous plaît.
Je respire un gros coup, on va pas s'en sortir.
Allez-y.
2 ans après Reservoir Dogs, 3 ans avant Jackie Brown, Tarantino entremêle les histoires de gens assez peu fréquentables, Vincent Vega et Jules, homme de main de Marcellus Wallace, patron de la pègre, marié à la sublime Mia. Pendant ce temps, Butch, le boxeur, truque son match et Honey Bunny et Pumpkin braquent un diner.
Don't you hate that?
Hate what?
Uncomfortable silences.
John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, and Bruce Willis.
You looking at something, friend? You ain't my friend, Palooka.
Die, you mother!
A new film from Quentin Tarantino.
Anna Girardot, vous aviez 6 ans à la sortie du film. Rassurez-moi, vous alliez voir Le Roi Lion, vous êtes trompée de salle.
Exactement, merci papa de m'avoir emmené voir ce film. Non, je l'ai vu plus tard, en VHS j'imagine, en cassette. Ça c'est de la pop culture.
Oui, absolument. Okay. Alors pourquoi ce Tarantino-là?
Parce que je l'ai revu récemment, je l'ai revu avant de voir Once Upon a Time in Hollywood. Et il y avait je retrouve un réel amoureux du cinéma. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont bricolées, qui ont dû être pensées, réfléchies pour faire, j'imagine, des économies, qu'il n'a pas encore tous les gadgets dans la main. Et pourtant, c'est créativement richissime. Et je l'ai revu là avec la scène avec Uma Thurman qui est là 20 minutes dans le film et pourtant elle est marquante. J'adore ce film.
Vous avez donc vu Once Upon a Time in Hollywood.
Oui.
Vous venez de l'avouer. Oui. Je recueille les avis, les opinions de nos invités qui ont vu le film. Alors quelle est la vôtre?
Et ben alors j'ai passé un très bon moment.
Oui.
Et puis j'ai été surprise parce que je m'attendais à quelque chose qui n'était pas. Mais voilà, j'avais revu Pulp Fiction avant et je trouve qu'on lui a donné là un peu... C'est comme s'il avait eu trop de gadgets, il avait eu trop de super comédiens, trop de musique, trop de caméras. Et du coup, on perd, pour moi, Tarantino, c'est le bricoleur du cinéma, c'est l'amoureux du cinéma. Et j'avais l'impression qu'il y avait un peu trop d'argent.
D'accord.
Voilà.
Anna Girardot, passons à la série. Pour la série, direction Le Bureau de Ricky Gervais et Stephen Merchant, car vous choisissez The Office. Alors attendez, version américaine ou anglaise ou même française avec François Berléand d'ailleurs? Quel est votre choix?
Non, la version américaine.
Américaine.
Avec Steve Carell.
Avec Steve Carell. Charline, vous êtes la fan numéro 1 de Ricky Gervais.
Oui.
Ben étonnez-nous.
Ben vous savez qu'il existe aussi une version indienne de The Office.
C'est vrai?
Oui,
non,
la preuve.
Sans blague.
Allez. Mahou.
Jagdeep Chadda. Naam se zahir hai, main Punjabi hoon. Or should we say Funjabi?
Et puisqu'on sait...
Oui. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est une version indienne de The Office?
Bah parce qu'on reconnaît David Brent, quand même. La version anglaise.
Vous voulez comparer? Oui, je peux réécouter, s'il vous plaît.
I try and laugh several times a day, just because it makes you feel good. So, let's try that. Hey? just... Come on, trust me, you'll feel...
Ok, d'accord, je peux avoir la version indienne à nouveau, là?
Ready? Main hoon. Jagdeep Chadda, naam se zahir hai, main Punjabi hoon. Or should we say Funjabi?
Dites n'importe quoi, en fait.
Non, je vous promets. Vous voulez qu'on écoute François Berléand?
Alors, expliquez-moi The Office.
Et pour moi, c'est... Bon, avec Ricky Gervais, je trouve que c'est magnifique avec Ricky Gervais, mais j'avais découvert avec Steve Carell et j'ai pas réussi à m'en détacher. Et je trouve que c'est... J'adore cet humour. J'imagine que pour les acteurs, ça doit être une régalade parce qu'ils sont chacun dans leur personnage. Il y a trois caméras et puis ils enchaînent comme ça et ils restent tout le temps dans leur personnage. Ça ressemble presque à du théâtre. Mmh. Et qu'est-ce que c'est drôle, cet humour qui est toujours au deuxième ou au troisième rang et pas le premier qu'on nous donne. C'est, je trouve ça hilarant.
Alors, Charline a déjà réservé ses tickets pour le show de Ricky Gervais à l'Olympia le 24 novembre.
Ah ouais?
Vous y serez?
Génial, j'aimerais beaucoup.
Bah c'est complet, faut se dépêcher, Anna. Écoutez, vraiment, elles ont été mises en vente il y a quoi?
Deux semaines?
Non, plus que ça. C'était avant l'été, je crois.
Je vous y emmènerai, Anna.
Merci.
Bon. Alors, qu'est-ce qui me manque? Il me manque de la musique. Eh bien, on va terminer avec cette chanson culte. Et la chanson, c'est celle-ci. Psycho Killer des Talking Heads, c'était en 82 sur l'album The Name of This Band is Talking Heads, qu'on pourrait traduire par le nom de ce groupe, c'est les têtes qui parlent, mais attendez, je suis un peu perdu. Vous êtes donc plus Talking Heads que Britney Spears?
Je suis multiple, je suis beaucoup en moi.
Vous êtes complexe. Pourquoi c'est Talking Heads?
Parce que j'adore cette chanson, parce qu'elle me fait danser, parce que je me suis retrouvée à une soirée l'autre jour à danser seule sur une piste de danse sur cette chanson, parce que j'arrivais pas à m'arrêter et qu'il y avait que plein de gens de la mode qui m'impressionnaient et que je me suis pas démontée et que j'ai dansé parce que j'adore cette chanson.
Voilà. Et vous avez suivi les multiples aventures de David Byrne au fil du temps ou vous en êtes resté à...
J'en suis restée là. Je suis désolée. Que... J'ai l'impression de répondre à côté depuis.
Non, pas du tout, pas du tout. C'est un artiste passionnant que je vous enjoins de.
Très bien.
De continuer à suivre. Alors, je résume Woody Allen, Pulp Fiction, The Office et Talking Heads. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça donne ça.
I try and laugh several times a day. Psycho killer. Because it makes you feel good.
Don't you hate that?
Hate what?
Uncomfortable silences.
C'est un défi, déclara ma femme, pulvérisant du même coup le record féminin de la lead tot en salle.
Voilà ce qu'il y a dans la tête d'Anna Girardot.
C'est un peu effrayant, voilà, hein, c'est pas dire.
Rassurant, rassurant.
C'est une popliste intégralement américaine. Est-ce que ça veut dire que rien d'hexagonal ne trouve grâce à...
Non, je sais pas pourquoi j'ai été éduquée, je crois comme ça, c'est mon père, et ma mère aussi. Mm-hmm. Au jour où j'ai eu mon bac, j'ai acheté un billet pour New York. Enfin, j'ai fait un road trip, j'ai acheté un taxi, j'ai traversé les États-Unis avec jusqu'à Los Angeles, j'ai vécu là-bas 4 mois. Et il y a quelque chose pour moi dans la culture, dans ma culture en tout cas, qui est très américaine.
Bien. Vous n'avez pas été déçu par l'idée que vous pouviez vous en faire, par la mythologie américaine?
Parce
qu'on a grandi dans cette culture-là, dans cette pop culture-là, oui.
Non, justement. Mais après, est-ce qu'aujourd'hui, je suis retournée à New York récemment, c'est vrai que tout le monde dit que ça a changé, c'est plus pareil qu'avant, mais à l'époque, c'était exactement comme j'en rêvais.
Bien. Alors, Anna Girardot, avant d'accueillir Cédric Clapiche, restons aux États-Unis avec le groupe de rock alternatif MGMT et ce morceau It's Working, clip dans lequel on retrouve... Mais vous !
Incroyable.
Vous, Anna Girardot. Le clip est à retrouver sur la page de l'émission et si vous n'êtes pas coincé dans votre monte-escalier Stana, vous pouvez le voir, le clip, sur notre page et écouter la chanson en même temps à la radio. Ben oui, le turfu, c'est ça aussi.
Pop-pop. Antoine Decaune.
Nous sommes toujours en compagnie d'Anna Girardot et vient de nous rejoindre Cédric Clapiche. Bonjour.
Bonjour.
Cédric Clapiche et... Ben oui, joyeux anniversaire. Regardez-moi cette débauche, cette pièce montée géante qui arrive dans le studio. Elle est colossale, elle fait au moins 2 mètres cubes.
Merci.
Oh là allez, là, il ne vous reste plus qu'à souffler.
Allez.
Ouais. Voilà, bravo Cédric.
Ben oui,
c'était votre part du gâteau, car oui, ici on ne refuse jamais une blague cinématographique dans ce studio. Alors si vous voulez voir Cédric Clapiche souffler sa part, ben, rendez-vous sur franceinter.fr. Voilà. si ça marche. Voilà, aujourd'hui, tous les deux, vous venez nous présenter Deux Mois, le nouveau film de Cédric, qui sort mercredi prochain. Alors, Deux Mois, ce n'est pas une histoire d'amour, mais plutôt l'histoire de l'histoire d'un amour. Celui entre Mélanie et, non pas Laurent, mais Rémi, c'est-à-dire vous, Anna Girardot et François Civil. Vous êtes tous les deux trentenaires, vous cherchez l'amour, comme dirait Karine Le Marchand. Vous tindez sans succès, et sans le savoir, vous allez emprunter deux routes qui... Non, je refuse de divulgacher. Bande annonce.
Bonjour. Bonjour. J'ai un problème de sommeil.
J'ai un problème de sommeil.
Est-ce que j'en suis mon genre tout le temps?
Je dors pas bien du tout.
Vous vous dites que c'était une vraie rencontre?
Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre?
Comment vous vous expliquez cette crise de panique dans le métro?
Une dépression?
Peut-être. Et vous avez le droit d'être heureux.
Vous avez le droit d'être heureuse?
Bah oui, tu vois. Hein. J'arrive.
Oui, bien sûr qu'on a le droit d'être heureux.
J'espère bien. Et je dois dire que ce film m'a fait penser à une chanson. D'Alain Souchon, est-ce que je me fourvoie?
Non, parce que c'est vrai que depuis que je monte le film, il y a beaucoup de gens qui me parlent de cette chanson de Souchon. Et la notion de moderne solitude, elle est bienvenue, disons.
Ça aurait pu faire un titre annexe pour le film.
Absolument,
moderne
c'est
solitude.
Vrai. Ouais, ouais.
Alors, faire du cinéma, c'est aussi raconter une époque. Vous, Cédric, vous captez comme personne les codes de l'époque dans laquelle on vit. Et à travers ce film, vous avez voulu nous montrer que plus les outils contemporains comme Twitter ou Facebook sont faits pour nous rapprocher, plus ils nous éloignent, en fait. On sent que vous avez étudié le sujet de très près. On en parle?
On peut en parler. C'est très facile, j'ai jamais utilisé Tinder, donc je suis super décevant en fait. Donc j'ai profité de ce film pour demander à des gens d'ouvrir des comptes. Donc justement avec Anna, on avait un compte féminin, un compte masculin, puis on regardait ce que les gens mettaient. Et donc c'était intéressant d'enquêter là-dessus, justement parce que j'y ai pas été.
Mais c'est vraiment un mal de l'époque.
Oui, en même temps, c'est un mal compréhensible. C'est-à-dire que moi, j'aurais 20, 30 ans aujourd'hui et je serais célibataire, j'irais. Hein, donc je comprends très bien. Mais c'est vrai que, enfin, c'est un peu comme Facebook. Tout le monde connaît les amis Facebook. On sait bien la différence entre un ami et un ami Facebook. Donc c'est un peu pareil sur Tinder. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser à rencontrer des gens. Et d'ailleurs, il y a parfois des gens. Moi, je connais des gens autour de moi qui sont restés ensemble. Et donc ça fabrique des couples. Mais ça fabrique aussi des histoires d'un soir et ça fabrique aussi une espèce de truc vertigineux où on plonge dedans et on ne sait plus où on va, quoi.
Anna, vous êtes trentenaire, contrairement à Cédric. Est-ce qu'il y a des codes de notre époque que vous avez l'impression que Cédric ne comprend pas?
Non, je trouve au contraire qu'il a vachement bien analysé ce que c'était d'être une jeune femme de 30 ans célibataire à Paris aujourd'hui.
Mais il l'a été, vous savez.
C'est ça.
Quand tu t'avais une grande chevelure blonde.
Il y a longtemps.
Mais c'est drôle, à un moment donné, il a voulu qu'on mette une trottinette dans le décor. Mm-hmm. Et là, il a dit, non, mais prenez pas celle-là, prenez la cassée. Et j'ai trouvé que c'était un mini détail, mais tellement vrai, et une très bonne analyse de à quoi ça allait ressembler l'année prochaine.
Alors, puisque vous parlez de trottinette, vous parlez de ce film comme d'un conte urbain. Est-ce qu'il ne pouvait avoir lieu qu'à Paris?
Non, j'ai d'ailleurs hésité à le mettre en province, à Lyon ou à Montpellier. Et puis, j'avais envie de revenir chez moi, je dirais, de refaire un film sur Paris, parce que mine de rien, Chacun cherche son chat et Paris, le film qui s'appelle Paris, c'était il y a longtemps. Chacun cherche son chat, c'était il y a 24 ans, j'ai réalisé. Donc je me suis dit, voilà, Paris a changé, j'ai envie de refilmer ma ville. Et c'était intéressant, justement, de filmer d'autres choses que ce que j'avais déjà filmé.
Et alors, en quoi la solitude a changé depuis Chacun cherche son chat?
Bah justement, je crois que c'est beaucoup lié à notre usage des téléphones portables et d'Internet. C'est-à-dire qu'on est hyper connectés, comme on dit. Cette fameuse moderne solitude, elle est liée à ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois très entouré, très connecté, et très distant des autres. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en cliquant, on va être proche, mais en cliquant, on est virtuel. Donc c'est pas la même chose.
Anna dit de vous, Cédric, que vous regardez les acteurs avec amour. Est-ce que c'est parfois embarrassant, Anna?
Mais non, pas du tout. C'est bien d'avoir imaginé qu'il me regarde avec beaucoup de haine. Je ne sais pas si j'aimerais non plus. Non, il a beaucoup de... Il est très curieux. Il est très... Il aime ses acteurs. Donc il nous laisse faire, il nous regarde et puis il nous fait confiance. C'est surtout ça, c'est de la confiance.
Yeah. J'aimerais aussi attirer l'attention de nos fidèles auditeurs sur l'un des personnages très importants de cette histoire, en l'occurrence Nuggets, Cédric Clapiche. Vous avez clairement un truc avec les chats. Comment est-ce que vous expliquez ça?
C'est parce que j'en ai pas.
C'est quoi cette obsession?
Du coup, j'ai une sorte de fantasme d'en avoir. Mais non, j'ai toujours aimé les chats, c'est vrai. Et là, j'avoue qu'on a été bien servi. Le fameux Nugget, le chat qui joue dans le film, il est extraordinaire. Et parfois, on faisait qu'une prise avec lui. Et donc... Moi, j'en étais resté à ce que François Truffaut disait sur le tournage avec les chats, et où ça n'a pas été comme ça, ça n'a pas été aussi difficile que pour lui, visiblement.
Cédric, ce qui vous a fasciné chez Anna, dites-vous, c'est sa facilité à oublier sa beauté. Vous dites, elle s'en fout qu'on la filme crade, elle s'en fout d'être moche, qu'on lui demande de baver, quand elle dort, on lui demande, elle le fait, voilà.
Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Il fallait pas lui dire, en fait. Elle était pas consciente. Maintenant, elle va être consciente. Mais non, c'est vrai qu'il y a, dans les belles actrices, il y a les femmes qui sont très conscientes de leur beauté et qui, du coup, jouent avec. Et ça se voit, je trouve, et c'est un peu gênant. Et puis, elle joue le personnage. Et donc là, effectivement, elle doit jouer quelqu'un qui est dépressif ou qui va pas bien, en tout cas au début du film. Et puis elle y va, quoi. Effectivement, ouais. Je lui demandais de baver quand elle dormait. Et, elle ronfle.
Rassurez-moi,
je ne ronfle pas la nuit.
Non, et vous ne bavez en dormant que quand on vous le demande. Non, bien sûr. Évidemment.
Les deux protagonistes habitent en face d'une ligne de chemin de fer et regardent souvent passer les trains. Alors, ils sont ni tout à fait ici, ni vraiment là-bas. Anna, comment est-ce que vous avez trouvé ce flottement propre à Mélanie?
Je pense que Mélanie, elle se pose beaucoup de questions sur là où elle veut aller. Et elle est à un âge où, en tout cas, on se pose ce genre de questions. Et elle est dans une société où, finalement, elle ne sait pas exactement quel chemin prendre. Et je pense que c'est cette sensation, tout d'un coup, de vide qui nous empêche de nous projeter. Et dans le film, on parle encore. On parle pas d'Instagram, qui serait encore plus polluant, je pense, pour elle. Mais au niveau des relations amoureuses, elle ne sait pas exactement ce qu'il faut aller chercher pour la rendre heureuse. Et finalement, c'est elle qu'elle doit d'abord apprendre à connaître.
Cédric, tout comme Jackie et Michel, vous dites on ne filme pas une personne, on filme un rapport. Ce rapport, il a été évident entre Anna Girardot et François Civil, qui étaient, je le rappelle, frères et sœurs dans votre film précédent, Ce qui nous lie.
C'est vrai que j'ai dit ça. Ce que ça voulait dire, c'est que c'est important d'avoir un bon rapport avec les acteurs. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est ça que je filme. C'est le rapport que j'ai avec ces acteurs, encore plus que la personne que j'ai en face de moi, l'acteur ou le personnage même. Donc, c'est vrai que ça se sentait déjà sur Ce qui nous lie, donc le film qu'on a fait en Bourgogne il y a 2 ans, sur les vignerons, où ils étaient donc 3 frères et sœurs avec Pio Marmaille en plus. Et où c'est leur rapport, c'est ça que je filmais.
Vous parlez de la complicité avec un acteur, là en l'occurrence d'une actrice, comme d'un moteur du film. Anna, est-ce que c'est aussi le cas pour vous avec vos réalisateurs? Est-ce que vous avez besoin de sentir une extrême complicité ou est-ce que vous êtes capable d'être complètement imperméable et de ne prendre que de les directions?
Alors ça dépend du réalisateur ou de la réalisatrice et du film. Avec Cédric, il y a quelque chose qui fonctionne entre nous. Je pense qu'il commence à vraiment me connaître de plus en plus. Et donc il sait où il peut m'amener. Et c'est à moi ensuite de lui montrer qu'on peut aller même encore plus loin. Et donc c'est un rapport de... Encore une fois, le mot confiance, je pense, revient. Et puis moi j'ai un respect énorme pour le cinéma de Cédric, donc quelque part je me sens, j'ai l'impression d'avoir une énorme responsabilité aussi, donc voilà, une envie de bien faire.
Cédric Clapiche, Anna Girardot, nous allons continuer cette conversation dans quelques instants à propos de ce film, mais pour l'instant j'ai une question moi à vous poser, est-ce que vous savez faire ça tous les deux?
C'était des doubles.
Le pop le plus faible était celui de Cédric, hein, je le dis à nos auditeurs. C'est pas grave, c'était pour lancer les pop.
Et bon anniversaire surtout.
C'était pour lancer les pop news.
Between Two Ferns était à l'origine un génial programme court et drôle sur Internet dans lequel le comédien Zach Galifianakis interrogeait des célébrités entre deux pots de fougère, d'où le titre. Avait participé au programme et aux interviews complètement barrées, voire inappropriées, Brad Pitt, rebaptisé Bart Pitt sur l'écran, hein, la faute de synthé étant un passage obligé de l'émission, Charlize Theron, Barack Obama ou encore Jerry Seinfeld, et tous se faisaient un peu malmener. Et Between Two Ferns va devenir un film pour Netflix. Le point de départ, une interview de Matthew McConaughey qui tourne mal puisque il meurt. Et voilà Zach Galifianakis mandaté par Will Ferrell pour emmener son émission à travers le pays à la rencontre de Paul Rudd, de Brie Larson, de Keanu Reeves ou encore de lui.
My guest today is Benedict Cumberbatch. But Benedict Benefit Lumberjacks.
Benedict Cumberbatch.
That's what it is.
Mise en ligne le 20 septembre.
Triste journée pour la pop culture. On apprend, sans rapport de cause à effet, les disparitions simultanées d'Ariane Carletti, qui a bercé les enfances de bon nombre d'entre vous, jeunes popopiens, dans le club Dorothée, et du grand photographe Peter Lindbergh, l'homme qui a sublimé bon nombre de beautés sur papier glacé. Il était passé par le studio de Popopop en janvier 2018, ici interrogé sur sa façon d'aborder le portrait.
Je dirais, on cherche d'ouvrir la personne. On cherche de le passer de cette protection. Et une fois on est arrivé là, à cet endroit, ça devient incroyablement intéressant. On dépasse quelque chose, on arrive dans un endroit qui existe ni sans elle, ou pour elle, ni sans moi. Mmh. Et on arrive à cet endroit et c'est très 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 intense. C'est un vrai voyage.
Une interview à retrouver dans son intégralité sur franceinter.fr.
Profitant des récents passages promo d'un Michel Sardou, n'oubliant jamais de préciser que tout était mieux avant, les Garibert, plumes acérées et renseignées du site d'information feuilletonnant Les Jours, se sont lancés sur Twitter dans un thread participatif assez hilarant dans lequel tout le monde est appelé à contribuer aux éventuels textes du prochain album de Michel. Parmi les lyrics des tweetos les plus inspirés, on peut lire, je cite, « On ne voit plus les orteils des minettes, elles sont toutes passées aux claquettes chaussettes » ou encore « Un livre, ils ne savent plus ce que c'est, ils se demandent où l'allumer » ou encore « Il n'y a plus de café que des burgers, plus de taxis que des Uber » des bobos qui vont à vélo au BHV s'acheter des graines bio. Pardon aux auteurs dont les alias sont parfois compliqués à retranscrire. L'intégralité est à retrouver sur le compte des Garibert.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Zach Galifianakis.
Voilà, oui, bien pas sûr. Mal, pas mal. Merci Charline. Cédric Clapiche, aujourd'hui ce n'est pas que votre anniversaire, c'est aussi celui de Beyoncé qu'on écoute tout de suite avec son morceau Formation.
Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Sauce in my bag, swag. I see it, I want it. now let's get information. I slay. Okay, ladies, now let's get information. You know you that bitch when you cause all this conversation. Always stay gracious, best revenge is your paper.
C'était Beyoncé, ça, non?
Oui, tout à fait,
oui,
Antoine.
Le titre, c'était Formation, et c'est extrait de Limonade.
Voilà, Lemonade, hein, bien sûr.
Lemonade, merci. Nous sommes en compagnie de Cédric Clapiche et d'Anna Girardot. Bah tiens, puisque vous riez, pour parler de quoi?
Pour parler de Deux Mois, le nouveau film de Cédric Clapiche avec Anna Girardot, François Civil, François Berléand, Camille Cotin, voilà, qui sortira le 11 septembre.
Très bien, c'est juste pour vérifier si vous suiviez bien,
bien sûr,
Cédric.
Évidemment.
En tant que réalisateur, vous vous intéressez aux choses qui paraissent insignifiante. Georges Perec appelait ça l'infraordinaire. Il disait, je cite Perec, hein, « Je m'intéresse au train qui ne déraille pas. » Alors qu'a priori, un train qui déraille, c'est plus excitant pour le scénario. Vous êtes donc sur les mêmes rails que Georges Perec?
Absolument. Mmh. Non, c'est vrai que j'aime beaucoup sa théorie qu'il a développée, qui est donc le contraire de l'extraordinaire, où il dit « je vais à l'intérieur de ce qu'on ne voit plus », parce que il avait fait un texte qui était intéressant, il disait « je défie n'importe qui de dire les portes qui sont à côté de chez lui quand on habite dans une ville, et on connaît le café d'à côté, la blanchisserie, mais après, dès qu'on passe trois numéros, on ne sait plus, quoi. Et donc, c'est des choses qu'on voit tous les jours, mais on ne fait pas attention. Et donc, c'est vrai que quand on commence à faire attention aux choses qui font partie de l'ordinaire, ça peut être intéressant.
Et alors pour vous qui avez beaucoup filmé Paris et qui le refilmez à l'occasion de ce film, qu'est-ce qu'on ne voit plus, nous, Parisiens, dans cette ville?
Je crois qu'on voit pas des choses simples. Dans le métro, j'avais compté dans le wagon où j'étais, je crois que c'était entre 70 et 80% de gens qui regardent leur téléphone portable. On le sait, mais on le voit pas. C'est sûr que ça, c'est un nouveau geste. Avant, il y avait plus de gens qui lisaient des livres ou qui faisaient d'autres trucs, quoi. Donc ça, c'est des choses qu'on voit pas, ça.
Est-ce que le Paris d'aujourd'hui est plus cinématographique que celui d'il y a une vingtaine d'années?
Non, je crois qu'il n'y a pas d'époque. Enfin, si, il y a des époques cinématographiques, forcément, mais c'est un peu le problème du train qui déraille. Ouais. C'est vrai que des événements, mai 68, la libération de Paris, a priori, c'est plus intéressant à filmer. Mais justement, moi, j'aime bien le côté non événementiel, ou de dire, voilà, qu'est-ce que c'est la vie quotidienne de n'importe quelle époque, parce que ça se ressemble. Et je pense que les problèmes qu'on a au 19e siècle, au 20e, au 21e siècle, rechercher l'amour, avoir des problèmes avec ses parents, ces choses-là, ben voilà, malheureusement, c'est éternel.
On sait l'importance que vous accordez à la musique. Pour la bande originale de Deux Mois, vous avez de nouveau fait appel à Loïc Dury, votre Danny Elfman à vous. Quelles indications est-ce que vous lui avez données pour le score? Est-ce que vous lui donnez des intentions comme un comédien?
À Loïc Dury? Oui, bien sûr. Déjà, on parle de l'intention du film parce que ça, on en parle avant que le film existe, au moment du scénario. Et on se demande, là, sur un film comme ça, quelle sera la musique de Paris? Parce que finalement, ayant fait pas mal de films sur Paris, par exemple dans Ni pour ni contre, qui était plus un film de gangster, mais qui se tournait à Paris, c'était le jazz qui a pris le dessus. On voulait qu'il y ait un côté, c'était sans doute lié au film nord-américain, au film de Melville, par exemple, où il y avait un côté jazzy. Là, il y a plus quelque chose de très électro assumé, sur justement la ville moderne, la ville qui est liée à des outils plus électroniques, quoi. Donc on est parti sur cette piste là quand on avait fait Chacun cherche son chat. C'était lié à la world music, c'était lié au côté multiethnique de Paris qui était plus présent dans ce film là et donc du coup voilà, à chaque fois il y a une direction.
Je me suis laissé dire que vous écoutiez beaucoup d'électro ces jours-ci.
Ouais.
Cette musique était déjà présente dans l'Auberge espagnole en 2002.
Oui, en fait, ça a démarré comme ça. Le premier film qu'on a fait ensemble avec Loïc Dury, c'était Peut-être. Et c'était donc sur Paris dans le futur, en 2070. Et là, effectivement, c'était très technoïde même. Donc, c'était notre première collaboration. Et j'aimais bien son côté sampleur, le côté électro.
Et on se souvient des morceaux de Daft Punk.
Oui, absolument.
Dans le film. Vous écoutez aussi ce genre de musique, Anna?
L'électro?
Oui.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous avez des playlists de préparation pour un film?
J'en fais une, ouais, par personnage. Et
pour Mélanie?
Qu'est-ce qu'elle avait, Mélanie?
Je ne savais pas, ça.
Si, ouais, non, je fais ça parce que c'était plutôt mélancolique. Mais alors là, je ne saurais pas vous redire. Mais c'était assez mélancolique. J'aime bien, du coup... Tu l'écoutais même le soir en rentrant et du coup rester dans le même mood que le
Barbara, enfin des trucs un peu gays.
Ouais, parce qu'elle avait ce problème-là, comme c'est quelqu'un d'assez joyeuse, pour jouer quelqu'un de dépressif, il a fallu qu'elle mette.
Il fallait que je mette le paquet.
Il a fallu penser à des choses tristes.
Il a fallu penser à des choses tristes. Parlez-moi
d'une chose triste.
Moi, je me suis fait larguer la veille du début du tournage.
Voilà, ça aide. Ça aide.
Devant Cédric, il m'a dit ah, mais c'est parfait.
Mais oui, c'est parfait.
Tu l'as ? Je lui dis non, mais là, ça va. Il fait oui, c'est très bien. Continue comme ça.
C'est ce que je voulais.
Avant de maîtriser le cinéma, Cédric, vous avez passé une maîtrise de cinéma et votre mémoire portait sur le non-sens. Dans le 7e art, parlant notamment des Marx Brothers, de Woody Allen, de Tex Avery, vous n'avez jamais été tenté, vous, de creuser aussi cette veine plus anglo-saxonne que française, il est vrai ?
Si, ben on a ça en commun, effectivement, avec Anna sur Woody Allen. J'adorerais faire ça. Et en fait, juste avant de moi, j'ai écrit un scénario d'une comédie qui était sur ce terrain-là. Et tout le monde m'a dit, surtout, fais pas ça. Donc, je sais pas pourquoi, mais ça fait peur aux gens quand j'essaye d'aller sur ce terrain-là. Donc oui, en tout cas, j'ai très envie un jour d'être capable de faire une comédie comme les Marx Brothers. Ouais. J'adorerais faire ça. Ouais.
Complètement délirante.
Ouais.
Mais il faut.
Il faut. Ouais, mais un jour j'y arriverai, vous verrez.
Est-ce qu'on peut envisager une troisième collaboration Clapiche,
on peut l'imaginer. Civil. On peut l'imaginer. Il y a pas de projet pour
alors
l'instant.
Ils seront grands-parents dans le prochain. Frères et sœurs, amants.
Faire du maquillage, ça va être long.
J'imagine tout.
Les grands-parents, il va falloir attendre.
Et vous, Anna, vous allez réaliser votre premier court-métrage ?
Oh, tout à fait. Cette année, je réaliserai mon premier court-métrage et j'ai hâte parce que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Enfin, en tout cas, j'écris depuis longtemps. Mais le faire lire, ça, c'était tout un parcours que je n'avais pas osé faire avant. Puis finalement, je l'ai fait. Et puis, j'ai fait lire. Et puis, des producteurs croient en moi. Mm-hmm. Et maintenant, j'ai des acteurs qui croient en moi, un chef opérateur, un ingé son. Enfin, il y a beaucoup de gens, du coup, qui sont prêts à se lever à 6h du matin pour mettre en image ce que j'ai écrit. Et ça m'a toujours paru absolument absurde, alors que je le fais moi-même de très bon cœur quand je fais un film.
C'est ce qu'il y a plus exaltant dans le cinéma, n'est-ce pas, Cédric ?
De se lever à 6h du matin ?
Non, d'avoir cette équipe,
tous ces
gens qui travaillent pour un projet commun.
Non, moi j'aime bien ce côté sport collectif du cinéma.
Ouais.
Non, j'aime bien, ouais.
Vous avez lu son court-métrage ?
J'ai lu. Ouais. Et j'aime bien. J'aime l'histoire. Mais choisis bien ton actrice principale, les actrices sont super chiantes, fais gaffe.
Hélas, le temps nous manque pour en parler, pour évoquer ce douloureux sujet. Car nous approchons de la fin de l'émission et c'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Alors, comme on parlait d'électro, j'ai envie de vous jouer un petit Johnny. Je n'ai pas trouvé la trappe pour descendre dans ma cave cette année, mais j'ai un ascenseur et je l'appelle. Wow! Oh là là, mais il y a un monde fou dans l'ascenseur, c'est quoi ça? Pardon? Mais pourquoi est-ce qu'il y a une manif ici? Ah oui, bien sûr, c'est l'ascenseur social! Et pourquoi? Ben oui, parce que tout le monde est dans la dèche, oui, ok. Tiens, écoutez, comme le morceau de Johnny Montreuil!
Je regarde la pluie qui tombe par la fenêtre de ma caravane, bien là. Et de tout son vacarme, un pauvre goût en bouche amère de ce triste whisky. Un bout de ficelle sans boucle retient mon futur rétréci. J'suis dans la dèche, j'ai pris un flèche. J'suis pas une flèche, encore moins un bandit. J'suis dans la dèche, j'ai pris un flèche. Yeah. Ouais, c'est la vie. J'enfile mes pompes pour une idée. Je me revois devant la glace. Je vois que j'ai encore pris du vide. Vieillis mal en ma carcasse. Je dois aller voir le vaste monde du craché à la gueule qui je suis. Même si ça doit prendre des plombs pour qu'ils entendent enfin mes cris. Je suis dans la dèche. J'ai plus un flèche. Je suis pas une flèche. Encore moins un bandit. Je suis dans la dèche. J'ai plus un flèche. Je pars à la pêche. De mes amis, yeah. Dehors la pluie me gifle, telle une volée de moineaux. Y'a plus personne au manche disque, mais mon picon a le cœur gros. Tous mes potes m'ont crié, putain j'en ai ma claque. La nuit ne fait que commencer, j'attends à l'heure du fric frac. Ah
paroisse retrouve souvent sa fierté comme un avion qui passe. J'essuie tes cheveux mouillés, c'est fou comme ton sourire, ma belle, enfin éclairer la nuit. Je t'ai trouvé ma colombelle à ton bras, je m'en suis enfui, je suis dans la dèche, c'est pas grave. Comment ma challenge, pas bâtard, j'ai plus un flèche, mais toi tu bats. J'ai la poussée, je suis plus rondable, je suis dans la dèche, mais c'est pas grave. Comment ma challenge, pas bâtard, j'ai plus un flèche, mais toi tu bats. Espèce de challenge.
La dèche dans Pop 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 sur France Inter, c'est signé Johnny Montreuil et c'est extrait de l'album Narvalo Forever, un morceau qui n'est pas dans la playlist Inter et que nous allons jouer ici jusqu'au moment où il y arrivera. Annie Girardot, Cédric Clapiche, il est 16h55 et c'est l'heure du moment magique, c'est-à-dire l'heure de réécouter le meilleur ou le pire moment de cette émission. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux ?
Ouais.
Alors on y va. Ben oui, joyeux anniversaire, regardez-moi cette débauche, cette pièce montée géante qui arrive dans le studio. Mais elle est colossale, elle fait au moins 2 mètres cubes.
Merci.
Allez, il ne vous reste plus qu'à souffler.
Allez.
Voilà, bravo Cédric. Alors, heureux.
Oh là là, c'est un moment magnifique.
Revive cet instant.
Émouvant, non ?
Ouais.
Mais oui, car c'était l'anniversaire de Cédric Clapiche et ça vous fait quand même hein
58
ans. Ah d'accord, merci merci. Merci infiniment Cédric Clapiche, merci Anna Girardot. Deux mois, ça sort mercredi prochain et c'est bien entendu un film Pop Pop Pop. Merci à toute l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Elisabeth Collet, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, lui. Oui, lui, Iggy sera dans Pop 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 et c'est tout à fait logique. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Plutôt, comme dit Biggie Pop, le perroquet d'Iggy Pop, à la fin de ses tutos sur YouTube. Ça veut dire, abonnez-vous. C'est pathétique. À notre podcast. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615 Pop 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 sur Instagram et Twitter. Et suivez Biggie Pop sur Instagram.